Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir noté ce nouveau rendez-vous de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un invité que j'ai rencontré lors de la 12e édition de Livre en Vigne. Et d'ailleurs, cette émission a été enregistrée dans la cour du château du Clos de Vougeot, beau château entre Beaune et Dijon. Et c'est Muriel Magellan que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Muriel Magellan.
Bonjour.
Muriel Magellan, ce n'est pas votre premier roman, mais vous venez de sortir donc un livre intitulé « Changer le sens des rivières » aux éditions Julliard. Muriel Magellan, vous êtes romancière et scénariste, je l'ai dit, c'est votre. Aujourd'hui, nous allons parler de votre cinquième roman. Peut-on en savoir un petit peu plus sur vous ?
Sur moi, oui. Je me définirais comme une saltimbanque qui écrit, on va dire. J'ai commencé par les métiers de la scène, un peu de théâtre, un peu de chanson. J'ai étudié la littérature, disons que j'ai tourné autour de l'écriture avant d'oser franchir le pas. Et puis après, je me suis lancée dans l'écriture de théâtre. Et c'est par l'écriture de théâtre que je suis arrivée au scénario, puis que j'ai passé le cap du roman.
Effectivement, sont mentionnés des textes de vous publiés à l'avant-scène théâtre, notamment. Oui. Et puis les titres de vos romans. Alors l'aventure romanesque commence en 2011 avec un refrain sur les murs.
Il y a eu avant Le lendemain Gabriel en 2007, qui est peut-être pas mentionné. Tiens,
qui ai manqué la ligne, pardon.
Et effectivement, en 2011, un refrain sur les murs, qui a été mon deuxième roman, qui a eu d'ailleurs le prix du deuxième roman. En Belgique, et c'était un beau coup de projecteur sur ce texte. Et voilà, j'en ai écrit trois autres, N'oublie pas les oiseaux, Les indociles et Changer le sens des rivières.
Et Changer le sens des rivières, qui a reçu d'ailleurs lors de ce week-end de la 12e édition de Livre en Vigne le prix Albert Bichot. Oui. Alors bravo Muriel Magellan.
Ça m'a fait très plaisir.
Roman que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Alors il s'agit du c'est une histoire d'amour, en fait. C'est l'histoire de la vie d'une jeune fille, mais qui va basculer tout de même dans le...
Grâce ou à cause, on va dire, d'une histoire d'amour. C'est vrai, ça commence par une histoire d'amour et c'est le fil tendu de l'amour n'est jamais complètement abandonné. Je le garde en fond de toile, je dirais, du livre, même si je pense que ce n'est pas son premier sujet, puisque son premier sujet, c'est plutôt comment, quand on est dans un milieu culturel défavorisé, où on n'a pas accès à la culture, comment on peut échapper à ce destin qui nous maintiendrait dans une certaine ignorance, dans une certaine classe sociale, qui ne nous donnerait pas confiance en nous aussi, parce que c'est aussi une histoire d'autorisation et de révélation de son propre potentiel.
Alors, votre héroïne est très jeune, elle se prénomme Marie, c'est Marie Leroy. Géographiquement, nous sommes dans la ville du Havre,
grande ville. Portuaire, qui avait l'avantage d'être à la fois une ville populaire, qui porte une histoire populaire très forte, mais qui est aussi une ville qui devient branchée, hein, qui a son cœur de ville très moderne, très contemporain. Et comme c'est la rencontre aussi entre ces deux mondes-là que je voulais raconter, je trouvais que la ville l'incarnait déjà.
Alors, je crois que c'est le jeune homme avec lequel elle va lier une histoire d'amour très forte. Hein,
il y a une vraie attirance entre eux. Oui, il y a une vraie attirance entre eux qui n'est pas encore de l'amour, je dirais, en tout cas dans ma lecture, mais qui est, ils se plaisent, mais Et le mais, c'est que ils viennent de deux mondes différents. Et lui, il est jeune, il est fougueux, il a envie de pouvoir échanger avec la jeune femme qui serait sa compagne. Et là, il parle de cinéma, il parle de littérature, il parle de peinture, et elle n'a pas les références. Et donc très vite, le jeune Alexandre, d'une façon un peu cavalière, va s'éloigner d'elle parce qu'il sait que ça ne marchera pas, malgré leur attirance.
Alors notre petite Marie, elle n'est pas aidée tout de même par la vie.
Non, elle n'est pas aidée.
Bon, elle a un baccalauréat professionnel de chaudronnerie. Elle n'a pas eu vraiment accès à la culture. Des parents, alors la maman
décédée,
n'est plus là,
ouais.
Et le papa est une sorte d'hypocondriaque, ouais. Pas très facile à vivre, ouais. Insultant, ouais. Très violent, ouais. Verbalement avec sa fille parfois.
Elle est vraiment non seulement socialement parce qu'il y a pas d'argent, mais aussi elle prend en charge son père, parce que son père est un hypocondriaque sévère. Ça veut dire que c'est une maladie qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale, donc il n'y a aucun accompagnement possible. Il ne peut plus travailler parce qu'il a l'impression qu'il va faire des arrêts cardiaques tout le temps, et il n'en fait pas. Donc elle prend en charge, sur son tout petit salaire de serveuse, l'aide à domicile qui va s'occuper de son papa. Donc elle a un contexte, pragmatique qui est compliqué, puisque il faut pas qu'il y ait d'incident, en fait. Il faut pas qu'il y ait d'incident, il faut pas qu'il y ait un problème dans sa machine. Sinon, financièrement, elle ne peut pas s'en sortir. Et bien sûr, il va y avoir un incident.
Alors, elle travaille néanmoins, elle gagne sa vie comme elle peut. Elle travaille comme serveuse dans un bar branché,
un bar branché du centre du Havre. C'est ce qui fait qu'elle arrive à boucler son mois en aidant son père d'un côté, payer son loyer, la voiture, parce qu'elle habite en banlieue du Havre, donc il faut bien prendre la voiture. Et toutes ces petites choses, d'ailleurs la voiture va jouer un rôle important dans le livre, toutes ces petites choses coûtent de l'argent et il ne faut pas qu'il y ait de problème.
Et d'ailleurs, Alexandre, donc le jeune homme, est-il lui socialement issu d'un meilleur milieu ?
Pas socialement, mais culturellement. Donc lui, c'est pareil, il est fils d'instit, et comme ils sont trois enfants, il est obligé de travailler à côté de ses études. Donc il a un job de graphiste, mais son rêve, c'est d'être dans le cinéma. Je voulais pas qu'il y ait de faire une distinction financière entre eux. C'est pas une discrimination financière, c'est une discrimination culturelle.
Le fossé, il est intellectuel
et
culturel, et le fossé est profond.
Et il est profond, et je voulais que nous, les écrivains, et que les gens qui lisons, etc., on se pose la question de comment nous aussi on est discriminants, justement par rapport à nos codes. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu n'as pas lu? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as vu ça? Et toutes ces choses qui sont excluantes aussi. Et Marie, elle est exclue, et elle le prend en pleine poire, en fait. Elle est exclue par ce jeune homme qui lui plaît. Et lui, il le fait de façon très naturelle, comme on le fait. Ah, t'aimes ça, je rigole. T'aimes pas ça, voilà. Je ne me reconnais pas en toi, donc je m'éloigne. Et ça, c'est une violence réelle pour elle.
Et dès le début du roman, Muriel Magellan, Alexandre utilise pour qualifier l'univers familial de Marie, il lui dit « Ah, toi, tu viens de la France profonde ».
Oui, oui.
Et elle va réfléchir à cette expression, oui. France profonde, et vous embrayez sur une réflexion sur les mots d'Alexandre.
Oui, oui.
Je vous lis, si vous me le permettez. Pour Marie, les mots n'ont pas de sens, mais des vibrations, à la façon d'une peau ou d'une haleine, qui permettent de se reconnaître et, au bout du compte, faire l'amour. Il lui semble que c'est la seule chose possible sur Terre, se blottir, se serrer, s'embrasser, s'unir. Elle aime la jouissance aussi, mais ce n'est pas ce qu'elle recherche en priorité. Et effectivement, le langage... déjà les distingue et les sépare,
oui.
Un peu.
Complètement,
quelque part.
Oui. Elle n'a pas, elle a un rapport sensuel aux mots. Elle n'a pas un rapport de sens tout court. C'est-à-dire que les mots sonnent et sont une façon d'être séduite par ce que dit Alexandre, mais ce n'est pas grave si elle ne le comprend pas. Or, Alexandre, lui, il est plus intellectuel, il veut être compris, il veut être opposé. il veut des points de vue, et ça lui échappe, elle ne comprend pas en quoi c'est important ça. Elle va le découvrir quand même au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire aussi son esprit critique va s'éveiller, hein. Mais à ce moment-là du livre, elle n'est pas du tout dans un regard critique sur le monde. Donc c'est beau à entendre, et c'est aussi un aspect de moi. En tout cas, je trouve que les mots, c'est beau à entendre, et quelquefois j'aime juste écouter les gens parler, et les gens qui parlent bien, juste pour leur musique. Et pas forcément pour ce qui est dit et articulé.
Alors, puisque vous aimez les mots pour leur musique, eh bien, on va proposer une petite pause musicale dans notre entretien. Je rappelle que c'est Muriel Magellan qui nous accompagne aujourd'hui à bord de Wagon Livre pour son dernier roman « Changer le sens des rivières ». C'est aux éditions Julliard, roman qui a été primé ici lors de la 12e édition de Livre en Vigne, prix Albert Bichot. Nous revenons dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Muriel Magellan, vous êtes avec nous aujourd'hui dans l'émission littéraire de Radion pour votre roman « Changer le sens des rivières ». Un petit mot sur le titre, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César.
Absolument, j'adorerais avoir trouvé moi toute seule cette formule, mais c'est Alain Souchon qui l'utilise dans sa chanson « La beauté d'Ava Gardner ». Il dit « J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne, on le perd ». Qui voudrait changer le sens des rivières. Et en entendant cette chanson plusieurs fois, je me suis dit que le défi qui était proposé à Marie, c'était ça, c'était de changer le sens des rivières d'une certaine façon métaphorique.
Alors revenons à l'intrigue de votre roman, c'est-à-dire cette jeune fille assez démunie intellectuellement parce qu'elle n'a pas eu la chance, de par l'univers familial ou scolaire, d'être imprégnée de culture. Elle a un gros manque de culture littéraire, musicale, cinématographique. Et elle rencontre un jeune étudiant passionné de cinéma qui, lui, fils d'instituteur, a un vernis culturel beaucoup plus luisant qu'elle. Et c'est une fracture qui n'est pas sociale, c'est une fracture. C'est un roman sur la fracture intellectuelle et sur le fait que finalement, ça peut empêcher des belles rencontres amoureuses, peut-être, ou des belles amitiés.
Je suis sûre, et que même dans nos métiers ou nos mondes, je le disais, écrivains, lecteurs, nous sommes aussi dans une forme de non-reconnaissance de l'autre s'il n'a pas accès à ça, ou alors l'échange n'a pas lieu. En fait, j'ai écrit, je crois, 2-3 pages sur le pont de Normandie, qui pour moi est bien sûr, d'abord je le trouve magnifique ce pont, mais au-delà de ça je le trouve symbolique. Ce pont payant rejoint le Havre et la côte normande avec Villerville, Trouville, Deauville, et il y a ce pont de Normandie-Honfleur. Voilà, ce pont de Normandie, il est payant, il y a quelque chose à fournir pour arriver à rejoindre les deux mondes. Je pense qu'il faut des ponts, et idéalement qu'ils ne soient pas payants d'une certaine façon.
Je reviens à la puissance des mots, au choix des mots. Marie est sensible aux mots, certains dont elle ne connaît pas du tout le sens. Et il y a, vous parlez des mots aux effets presque érotiques sur Marie.
Oui, parce que elle, c'est sonore pour elle un mot, et ce n'est pas raccordé à du sens. On dit souvent qu'une des choses qui donne la liberté de penser, c'est les mots, hein, c'est-à-dire connaître. Plus je connais de mots, plus je peux préciser ma pensée, plus je peux être singulière, libre dans ce que je dis. Elle connaît peu de mots, donc sa pensée elle ne sait pas l'extirper d'elle, en fait, alors qu'elle est extrêmement intelligente, qu'elle est très pertinente, qu'elle a un énorme potentiel. Et c'est aussi ça qui m'intéressait, c'était de découvrir le trésor qu'elle découvre, elle, le trésor qui est en elle. Mais elle a un complexe d'infériorité stupide qui est dû, mais tout à fait compréhensible, qui est dû à ce qui lui est renvoyé d'elle. Elle prend conscience qu'en enrichissant sa palette à la fois de vocabulaire, à la fois de... elle pourra affiner sa pensée et s'affirmer. C'est tout ce parcours délicat qui est à faire.
Et puis, Muriel Magellan, en vous entendant parler de la richesse du vocabulaire que l'on peut avoir, hein, savoir exprimer les nuances, la précision, trouver le mot juste, comme pour l'écrivain, trouver l'écrivain, le mot juste, c'est très important notamment, mais pas besoin d'être écrivain pour trouver le mot juste. Dans la vie de tous les jours, ça peut être très important. Ça rappelle un peu ce que notre prix Nobel de littérature, Albert Camus, disait qu'effectivement, manquer de précision dans le choix des mots, c'était ajouter de la confusion dans un monde qui alors, me semble-t-il, en 2019, l'est encore plus qu'à son époque.
Oui, je ne sais pas sur ces derniers aspects, mais en tout cas, je pense que nous sommes des êtres confus, que l'addition des êtres confus que nous sommes est différent les uns des autres. crée encore plus de confusion et que notre rôle, c'est de tenter régulièrement de nommer, d'éclairer ou de poétiser ce brouillard pour lui donner du sens, en fait. Je pense que c'est effectivement indispensable d'avoir les mots pour ça.
Alors notre petite Marie, évidemment, face à son bel Alexandre, passionné de cinéma, qui cite des noms de réalisateurs ou des titres de films qu'elle ne connaît pas, elle se sent, elle se sent un peu idiote et puis totalement dévalorisée et impuissante aussi.
Oui, c'est une frustration. Hein. C'est elle voit dans le regard d'Alexandre sa propre ignorance. Et ça ne lui avait jamais été vraiment renvoyé parce que elle n'est pas entourée habituellement d'intellectuels, donc elle n'avait jamais eu le droit à ce traitement-là. Et cette frustration crée une violence qui fait qui l'a conduit à l'attendre en bas de chez lui, en fait, et à lui demander une explication. Et le jeune Alexandre est un peu lâche, il essaie de fuir, il essaie d'enrober la réalité, et puis il finit par lui dire « ça ne marchera jamais entre nous, on n'est pas du même monde, on n'a pas les mêmes codes », et ça la rend violente, et elle, on va dire crûment, elle lui casse la gueule d'une certaine façon, en tout cas elle le pousse, il tombe mal. Il y a une voiture de police qui fait la ronde à ce moment-là. Elle se débat au moment de l'interpellation. Elle est violente avec les flics. Et elle se retrouve en comparution immédiate. Donc cette frustration la conduit là, devant les juges.
Et effectivement, elle est condamnée. Hein, 6 mois de prison avec sursis. Et surtout des dommages et intérêts qu'elle doit verser. Alors que tout de même, Alexandre, lui, n'a pas déposé plainte.
Non. Il n'a pas déposé plainte parce que l'incident pour lui est finalement mineur. Mais ce sont les flics qui ont déposé plainte puisqu'elle les a maltraités. Elle s'est battue contre eux et donc elle est jugée pour ça.
Et là, ce n'est plus du cinéma. Et justement, Muriel Magellan, il y a une petite phrase délicieuse que je vous demanderai peut-être de commenter. Oui. Vous écrivez... C'est au début du roman. Oui. Le cinéma est le premier pourvoyeur de nombril avec la littérature, peut-être.
Oui. Oui, parce que je pense que nous sommes les écrivains ou les réalisateurs. Nous regardons beaucoup nos propres vies. Nous regardons beaucoup, ce qui est aussi une qualité pour la création, je crois, mais qui rend les écrivains et les artistes parfois durs à fréquenter. Ouais.
Alors, Alexandre mentionne beaucoup de titres de films, et notamment des films de Truffaut.
Oui.
Et notamment Le Dernier Métro, qui est au cœur... Enfin, il n'y a pas que celui-ci, hein, mais qui est au cœur du roman Le Dernier Métro. Il y a Les 400 coups ou la femme d'à côté. Alors pourquoi avoir retenu ce réalisateur-là? Enfin, pourquoi celui-ci est-il plus mis en valeur? Ça aurait pu être, je ne sais pas, Claude Autant-Lara, une autre époque. Là, c'est la nouvelle vague.
La nouvelle
aussi,
vague, c'est ça. Bien sûr. Il fallait moi, je voulais parce que c'est un jeune homme branché, donc je pense qu'il faut qu'il soit connaisseur de la nouvelle vague. Mais aussi, je voulais quand même que la référence soit un cinéma. Truffaut est pour moi le cinéaste de la nouvelle vague le plus abordable. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit un cinéaste auquel elle aurait du mal, sans outils, à adhérer. Puisque c'est rien dévoilé que de dire à un moment donné elle va regarder un film de Truffaut. Donc je voulais que cette chose, et je trouve que Truffaut il a une immédiateté aussi qui le rend accessible et qui est le pont, hein, toujours pareil, le pont entre les deux mondes, je trouve qu'il le fait magnifiquement bien.
Et d'ailleurs de Truffaut, c'est Alexandre qui dit à Marie... Truffaut a écrit un jour « Seul le domaine affectif m'occupe et m'intéresse ». Et vous, seul le domaine affectif vous occupe et vous intéresse dans vos romans ?
Oui, c'est, j'ai relevé cette phrase de Truffaut parce que je pense que je pourrais le dire. Je pense que je n'entre dans le monde social que par l'affectif. Je ne regarde... l'aspect politique des choses que par l'intime. c'est l'intime qui me conduit à regarder la mécanique du monde, mais je ne suis pas intéressée a priori par la politique ou le social. C'est l'intime qui m'y conduit.
Alors, il y a une question extrêmement... Elle est pertinente et je me la suis retournée. En fin de compte, c'est la question, qu'est-ce que l'on connaît par cœur ? Et d'ailleurs, c'est amusant parce que la petite Marie, seule dans sa chambrette, se dit, mais finalement, qu'est-ce que je connais par cœur ? Et donc, et vous, Muriel Alors... Magellan, qu'est-ce que vous connaissez par cœur ?
Alors,
des récitations, qu'est-ce qu'on connaît par cœur ? C'est une très bonne question.
Elle se pose la question parce que dans le lien qu'elle va avoir avec le juge, peut-être je peux commencer.
Alors, je ne veux pas trop en dire non plus.
Bon, elle va avoir un lien particulier avec ce juge qui lui connaît des choses par cœur, puisqu'il a des textes de loi en tête et ça l'épate. Et quand elle se retrouve chez elle, effectivement, elle se dit mais moi, qu'est-ce que je connais par cœur ? Et elle retrouve un poème de Verlaine et un bout de scène de théâtre de Molière. Moi, je connais par cœur des chansons, je connais par cœur du théâtre, Racine. J'ai été tellement fan de Racine, j'ai appris des tirades entières par cœur. En prose, je connais quasiment rien par cœur, en fait. C'est souvent ou de la poésie ou du théâtre.
Est-ce que Muriel Magellan, puisque j'ai la page du passage en question ouverte devant moi, est-ce que vous voulez nous lire le passage où Marie se demande ce qu'elle connaît par cœur.
Dans son petit appartement, la télé allumée sans le son, Marie se demande ce qu'elle connaît par cœur, elle. Elle se souvient avoir appris des poèmes en classe primaire et même une scène de théâtre jouée au collège devant un professeur de français. Elle avait été félicitée. C'est timide, mais c'est d'une grande justesse. Pourtant, elle n'avait pas parlé fort, comme ses autres camarades. Elle tente de se souvenir. Elle ne saurait dire le titre de la pièce ni son auteur, mais elle a gardé en tête les premières répliques. « Madame, écoutez-moi, vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable ? Non, il ne faut pas l'être et je ne le serai point. » Elle sourit à cette dernière phrase qu'elle répète à voix haute en insistant sur les toniques et les atones ressurgis de l'enfance. « Non, il ne faut pas l'être et je ne le serai point. » Elle se souvient aussi du début d'un poème, cette fois... Le nom de l'auteur est resté associé au titre « Art poétique » de Paul Verlaine. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Elle n'en comprenait que le premier vers qu'elle opposait, insolente à son père quand il lui demandait de baisser le son de sa chaîne stéréo. De la musique avant toute chose, c'est Paul Verlaine qui le dit, ce qui avait le mérite d'impressionner son géniteur quelques heures durant.
Et d'ailleurs, de la musique, merci Muriel Magellan, la musique, dans votre roman, vous écrivez, et là on retrouve, tout est dans l'harmonie hein, dans le roman, vous gardez vos lignes de réflexion.
Oui.
Les mots, c'est comme la musique, ça sonne ou ça sonne pas. Ramenez à l'écrivain que vous êtes, les mots, ça sonne ou ça sonne pas. Vous,
oui,
l'épreuve du gueuloir chez vous, ça arrive aussi, comme Flaubert, l'épreuve du gueuloir ?
Oui, je le fais pas, pas tant que ça, en fait, de dire à haute voix mes textes, mais j'ai l'impression d'entendre, quand j'écris, d'entendre la voix du texte, en fait. Et je viens de la musique, c'est vrai, et je pense qu'il en reste tout à fait des traces dans ce que j'écris, tant dans la rythmique que dans les sonorités, je pense.
Nous avons parlé des mots, du pouvoir évocateur des mots, peut-être même de cette sorcellerie évocatoire chère à Baudelaire, par exemple, avec les mots. Marie, donc, condamnée, devant payer une amende qui, pour elle, est une somme très importante au regard de ce qu'elle gagne, quand bien même elle a ses petits pourboires et qu'elle fait très attention à ses dépenses, et va s'offrir une rencontre, justement, avec quelqu'un qui a le pouvoir avec certains mots, qui est un homme taciturne, dépressif.
Oui.
Là, on peut peut-être un petit peu en raconter, puisque c'est sur la quatrième de couverture du roman.
Oui, bien sûr. Le juge qui est opposé à elle en comparution immédiate est un client du bar. Et elle va le recroiser. Et c'est à lui qu'elle a l'audace absolue, car Marie est une courageuse, une risqueuse, Elle a l'audace absolue de lui demander s'il ne peut pas lui prêter l'argent de l'amende qu'il lui a donnée en fait lui-même. Et le juge s'en amuse et lui propose un marché en échange de l'argent qu'il va lui prêter. Elle le conduit en voiture. Et c'est un juge qui est assez gros, qui a du mal à rentrer dans la voiture, qui ne conduit pas, on ne sait pas tout à fait pourquoi. Et c'est elle qui va le conduire toute une partie du temps du roman. Et ce rapport dans l'habitacle entre cet homme qui est tellement éloigné d'elle et cette jeune femme moderne, contemporaine, audacieuse, c'est ce qui va... C'est frotter de pierre entre elles pour voir s'il y a l'étincelle qui se crée.
Et c'est une chance aussi.
C'est une chance parce que je pense que toujours mon histoire de pont, c'est-à-dire qu'il faut des ponts. Et, alors bien sûr, certaines rencontres font pont comme les professeurs, parfois quelques adultes, quelques parents de camarades qui créent, qui vous révèlent à vous-même. Mais sinon, si ça n'a pas lieu, c'est très, très compliqué de sortir de cette prédestination culturelle.
Et l'animateur de radio a été très sensible au fait que dans les trajets, puisque Marie devient le chauffeur du juge, elle lui rend service et il la paye en échange pour l'accompagner à différents endroits, tantôt au tribunal ou dans d'autres lieux, notamment auprès d'une femme, et quelle femme d'ailleurs, il y a très souvent la radio qui est allumée dans la voiture. Alors est-ce que c'est souvent France Culture, et Marie entend des animatrices, des animateurs parler sur des thèmes extrêmement sérieux, scientifiques, avec de la belle langue. Ça fait plaisir de lire un roman où il y a des séquences de France Culture qui, à mon avis, sont retranscrites.
Quasiment, j'ai un peu mixé des choses, mais pour moi, la radio est très importante dans ce livre. Très importante, parce que je ne voulais pas que l'imprégnation culturelle se fasse seulement par le personnage du juge. Je voulais qu'il y ait d'autres médiums, et la radio en est un. Elle met énergie quand elle monte dans la voiture, et lui, il tourne le bouton et il se met sur France Culture ou d'autres radios, mais des radios où ça parle, c'est ça qui l'étonne.
Ça peut être aussi, il y a même question pas de jazz radio, mais il y a une...
je ne nomme pas vraiment les radios, je dis juste que ce sont des radios où ça parle. Et je le fais exprès parce que je pense qu'il y a... plusieurs ondes où on échange, on discute, on polémique. Et elle s'étonne de ça. Parce qu'elle écoute toujours de la musique. La radio, pour elle, c'est la musique. Et elle s'étonne qu'on puisse polémiquer sur la vérité, sur est-ce que La Fontaine, c'est de la poésie toujours. Elle ne comprend pas qu'on puisse polémiquer là-dessus et qu'on puisse se mettre dans des états assez sérieux, en fait, pour parler de choses qui ne viennent jamais traverser son esprit. Et je trouve que la radio vient en elle, quoi.
Et d'ailleurs, le juge lui explique pourquoi il met toujours la radio. Et là, c'est un très beau passage sur les éclaireurs du monde. C'est page 109. Et j'ai bien envie de vous inviter à nous lire le passage en question, Muriel Magellan.
Avec plaisir. Tu sais pourquoi je mets la radio tout le temps ? Je cherche quelqu'un qui dirait autre chose que « la nuit tombe plus tôt, quand l'hiver arrive ». La nuit tombe plus tôt, on parle musique. La nuit tombe plus tôt, on parle poésie. La nuit tombe plus tôt. Si je me permettais d'être grossier avec toi, je te dirais que même quand on parle de cul, on dit tous « la nuit tombe plus tôt ». Elles sont où les nouvelles voix de ce monde, hein ? Où sont les poètes, les faiseurs de lois, les défricheurs ? Est-ce qu'il y en a chez les rappeurs, hein ? Tu écoutes cette merde, toi, non ? À ton âge... Oui, à ton âge, j'avais l'impression qu'il y avait des éclaireurs. Qu'il suffisait de bien ouvrir les yeux, de bien élargir les écoutilles et que ça tombait dans votre escarcelle. L'étonnement, l'intelligence et même la poésie. Ça m'emmerdait, la poésie, mais bon, j'aimais ça, qu'il y ait des poètes, pour m'objecter que j'étais un con avec mon droit, mes lois et mes jurisprudences. Tu en vois, toi, des poètes, hein ? Tu en vois, toi, des juges qui sortent de leur routine ou de leur ambition ? ou même des scientifiques qui bousculent le monde autrement que pour ajouter des fonctionnalités à ton iPhone, tu en vois ? Autrement que pour aller conquérir l'univers, chercher une planète jumelle de la Terre pour nos vieux jours d'humains irresponsables ou des transhumanistes qui veulent te faire vivre 1000 ans. Parce que c'est ça les scientifiques aujourd'hui, des performeurs, des développeurs du mammifère homme. Blade Runner, tu as vu le film ? Tu chercheras. C'est ça la science d'aujourd'hui.
Merci Muriel Magellan pour la lecture d'un extrait de votre roman « Changer le sens des rivières ». On va, si vous le voulez bien, marquer un nouvel intermède et puis on vous retrouve juste après la pause musicale que nous offrons à nos auditrices et auditeurs.
J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer, les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'un vagarnet. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre, les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'un vagarnet. Chemin de fer, la beauté d'un vagarnet. J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne, on le perd, qui voudraient changer le sens des rivières. Trouver dans la lumière la beauté d'un vagarnet. Retrouver les choses premières, la beauté d'un vagarnet.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Muriel Magellan. Changer le sens des rivières, c'est le titre de votre dernier roman paru chez Julliard. Roman d'apprentissage, dit la quatrième de couverture. Et il est vrai que Marie, très jeune vingtaine, jeune fille courageuse, audacieuse aussi pour aller trouver le juge et lui dire « Écoutez, prêtez-moi de l'argent et puis en échange, j'essaie de vous proposer quelque chose. » elle est courageuse, mais de par la condamnation, elle est maintenant totalement coupée de son Alexandre. Elle a interdiction de se rendre dans le quartier où réside le jeune homme qu'elle a bousculé et qui d'ailleurs a été blessé, a eu quelques jours d'ITT, comme on dit, d'interruption temporaire de travail. Et évidemment, c'est aussi en voiture, entre Marie, cette jeune fille, et ce juge taciturne, ronchon, qui aime les mots. Et qui écoute très 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 souvent France Culture en voiture, ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir. Là aussi, peut-être que lui lance plus de ponts que Marie ne peut en lancer.
Tout à fait. Je pense que enfin lui.
Et il y a une différence d'âge.
Oui, il y a une différence d'âge. Gérard d'Outremont, donc ce vieux juge, n'est pas quelqu'un de fasciné par la transmission. On a lu un extrait là où il râle sur le monde. C'est un râleur. Il n'a plus tellement de foi. Et c'est compliqué pour une jeune femme de se trouver aux côtés de quelqu'un qui n'a plus la foi. Et ce que je voulais, c'est que ces deux-là, sans forcément de gentillesse en fait, âpres, ces deux personnalités âpres, simplement par le voisinage, par l'imprégnation, l'écoute, commencent à se donner des choses. Mais que ce ne soit pas, je crois, en fait, j'ai la sensation que nous craignons de vivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un, si on sent que ça va bousculer, on s'en protège, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est pourtant dans ces secousses, dans ces violences, dans ces frustrations comme a eu Marie, dans ces dérapages, elle sort du droit chemin, Marie, hein. C'est souvent dans ça que les murs se fendillent et qu'on peut entrevoir le monde de l'autre et peut-être aussi une part de son propre monde. Mais on n'ose plus, là. Je trouve qu'on est dans un temps où moralement on essaie de nous contenir, alors que est-ce que ce n'est pas dans les dérapages qu'on avance. Je ne crois pas, et je pense que ce livre porte ça, c'est parce que ce sont deux personnalités qui sont finalement OK pour déraper que le petit miracle et l'étincelle a lieu. Sinon, c'est compliqué. Sinon, ça n'aura pas lieu parce qu'on va s'en protéger très, très naturellement, en fait.
Alors, le juge, bien sûr, a une place importante aux côtés de Marie qui devient sa conductrice, son chauffeur particulier, en tout cas occasionnel, voilà. Puisqu'elle doit faire tant d'heures de conduite pour ce juge qui n'a plus de permis de conduire.
Oui.
On ne sait pas trop, enfin si on sait, mais je n'en parle pas, j'en ai peut-être déjà que trop dit. Et en fin de compte, Muriel Magellan, il y a aussi un événement, un incident, c'est le retour inattendu de la sœur un peu fofolle avec une copine, oui. Donc elles arrivent de Suède, oui. Elles disent qu'elles travaillent pour Emmaüs, me semble-t-il,
oui.
Et elles sont intéressantes aussi, parce que la grande sœur, elle est un peu hystérique, revendicative, féroce, violente aussi, d'une certaine manière, aux antipodes de sa gentille sœur, et elle joue aussi un rôle.
Oui, je pense que je pense que ce sont des personnages. Victoria, cette grande sœur, est un personnage important du livre.
C'est la révoltée, alors que Marie, c'est la soumise, la résignée peut-être.
On pourrait le croire, mais finalement, j'espère qu'à la fin du livre, on change un peu notre diagnostic. Mais oui, on pourrait le croire, en tout cas, en apparence. Victoria a refusé ce monde et est en insurrection et elle a même un discours, Victoria, hein, grâce à Inge qui est sa copine et Inge qui est, on sent qu'elle a un bagage culturel et on sent qu'elle a parlé à Victoria. Donc Victoria, elle répète un peu comme ça le discours de Inge, mais c'est finalement une colère très désordonnée qu'elle a.
C'est politique.
Politique, absolument, qu'elle a formalisé à sa façon, qu'elle a tenté de mettre en ordre. Elle a tenté de mettre en ordre des choses, mais comme elle n'est pas plus outillée que sa sœur, même moins, parce qu'elle n'a même pas été jusqu'au bac, alors que Marie, elle a été jusqu'au bac. Et d'ailleurs, Victoria lui dit, toi, t'es l'intellectuelle de la famille, parce que t'as eu ton bac pro, ce que Victoria n'a pas. Et elle n'a pas les outils, donc elle est, aussi, je pense, aussi intelligente que Marie, Victoria, mais elle prend cette colère, elle met des mots dessus un peu en désordre et ça donne aussi, je crois, des phrases qu'elle dit face à la mer la nuit et sous les étoiles qui peuvent nous donner envie d'y croire, mais en réalité, faut-il les suivre ?
Voilà. Alors, la grande sœur, c'est ça, mais la grande sœur Victoria, elle a choisi de partir, de faire sa vie. Elle a abandonné le père malade, mais elle a claqué la porte à cette misère. Elle a été capable de se révolter.
Oui, on peut le dire comme ça. Elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée sans bien savoir où elle allait. Elle est perdue, en fait. Elle est perdue avec sa révolte. Hein. Ce que je voulais, en fait, c'est qu'on sente que Marie... Ce sont des voyoutes, hein, Victoria et Inge. Hein. Elles ont passé la ligne de la loi très clairement. Et je voulais qu'on sente que Marie, si on n'en prend pas soin... comme on pourrait prendre soin d'un petit bonsaï. Si on n'en prend pas soin, elle peut basculer dans ce no man's land dans lequel est finalement quand même Victoria.
Alors justement, si Il y a une forme de violence verbale, violence physique parfois de Victoria et Inge. Elles n'ont pas peur d'en découdre. Hein. Elles sont
absolument
courageuses.
Ouais, elles sont...
Le Alexandre, elles n'ont qu'une envie, c'est de l'attraper et faire regretter ce qu'il a fait subir à la gentille Marie qui est émouvante. Et on a l'impression que Marie, tout lui tombe sur les épaules. Enfin, Après, elle va devenir une autre femme. Elle va peut-être devenir finalement une vraie femme, autonome, indépendante, plus cultivée et plus heureuse aussi.
C'est pour ça que c'est aussi un roman d'apprentissage. C'est que cette petite chose miraculeuse peut se produire chez Marie. C'est très fragile, mais c'est possible. On peut croire que le côté rock'n'roll un peu de Victoria et Inge les rend plus fortes que Marie, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit plus forte. Je pense que Marie, elle a une vraie force intérieure, elle ne l'a pas encore vue, et voilà.
Deux très beaux passages parmi beaucoup d'autres dans votre roman, dont je rappelle le titre « Changer le sens des rivières ». Il y a un éloge de la douceur. Je vais d'ailleurs dans un petit instant vous demander de nous le lire. Et puis il y a aussi des pages extrêmement sensibles, didactiques aussi, sur les bonsaïs dont vous avez parlé, qui méritent justement une attention extrême, un soin particulier pour qu'ils puissent évoluer. Et finalement, bonsaï Marie, c'est un peu...
C'est très proche. Oui, effectivement, je voulais faire un système d'écho, même si je suis prudente avec ce genre d'image, mais là, je crois que ça marche entre les deux. C'est le soin qu'il faut porter à ces arbres qui ont l'air petits, mais qui coûtent très cher et qui peuvent coûter très cher. Je voulais qu'on comprenne que Marie, qui a l'air de rien, elle peut valoir très cher. Mais pour ça, il faut la choyer.
Voilà. C'est ce qu'a compris d'ailleurs une femme qui fait son apparition dans le roman et dont je ne veux pas trop en dire,
mais qui est un beau personnage, je crois.
Ouais. Et Marie a la chance de rencontrer, peut-être à un moment décisif de sa vie, des personnes qui vont la faire avancer et qui peut-être vont la sauver.
Par accident même. C'est-à-dire parce qu'elle a été trop loin quelque part, parce qu'elle ne s'est pas normée, la rencontre a lieu.
Muriel Magellan, je vais vous demander de nous lire ce que j'ai appelé, moi, cet éloge de la douceur. Hein, c'est à l'extrême, presque à la fin de votre roman. C'est un très beau passage que je voudrais que vous partagiez avec nos auditeurs.
Oui, c'est au contact de Charlie qu'il a compris à quel point notre époque avait honte de la douceur. C'est en découvrant sa douceur assumée qu'il en a mesuré la rareté autour de lui, dans son travail, mais aussi chez les êtres qu'il croise quotidiennement. Aujourd'hui, les tendres cabossés sont des has-been. Le monde aime les carnassiers, les femmes et les hommes en colère. Il faut être en guerre. On n'écoute que cela. Les battants, leur rage à peine dissimulée est perçue comme une qualité pour survivre et gagner. On associe la douceur à la faiblesse, comme si les doux ne pouvaient pas aller au combat de la vie. Est-ce que Charlie ne s'est pas battue? Est-ce qu'elle n'a pas gagné? La société ne sait pas distinguer ces vainqueurs-là. Il faut détester, haïr même. Le dire, c'est encore mieux. Les réseaux n'ont que ce mot-là aux lèvres. Radicalité. Radicalité des formes. Radicalité du discours. Radicalité des sanctions. La nuance, la discrétion sont étouffées sous les coups de boutoir des gueulards ou des railleurs. Plus une personne douce dans les médias. Il faut parler fort, s'indigner de la bonne manière. Les femmes douces, quelle soumission aux clichés. Les hommes doux ont perdu depuis longtemps. On leur fait un procès en tiédeur. Et alors, en quoi la tiédeur ne serait-elle pas une température agréable? Il aime l'eau tiède sur ses pieds le soir. La tarte tatin que Marie lui a servie était tiède et c'est bien ainsi qu'elle est bonne. Mais non, on cloue la tiédeur au pilori comme si elle n'était que la moitié de quelque chose. Quel est le jury stupide qui décrète que le chaud et le froid valent mieux que le tiède, que la virulence vaut mieux que la tempérance? Gérard préfère son ennui dépressif, à la colère ambiante et obligatoire, à la guerre que tout le monde considère comme implicite. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la guerre et gagnent quelques belles batailles quand même, sans se draper dans la fureur et le ressentiment. J'admire cela qui passe entre les gouttes de cette nouvelle mode en vouloir à la terre entière.
Merci Muriel Magellan pour cette lecture, de cet éloge de la douceur. C'est aussi Muriel Magellan qui est derrière cette position,
oui.
Cette...
Oui. Oui. Je suis comme lui, lasse de la violence et de la radicalité dans laquelle on se doit d'être dans toute prise de position. Ça me fatigue. Je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est dangereux ce goût qu'on a pour la radicalité, pour les positions prises sans. On aime ça, ça nous fait rire, ça nous plaît, ça, même si on n'adhère pas, on transmet. Ah, t'as entendu ce qu'il a dit. Et je pense que c'est ça nous sépare, voilà.
Et puis il y a une phrase clé, je la trouve presque rimbaldienne, c'est il faut savoir partir.
Oui.
Et puis franchir des seuils. Oui. C'est franchir des limites,
oui,
parfois.
C'est vrai, c'est
raisonnablement, attention, raisonnablement.
Oui.
Il faut savoir partir.
Il faut savoir partir, c'est une des grandes difficultés auxquelles se heurte Marie, parce que c'est difficile de partir quand on a des personnes dépendantes de nous. C'est facile de partir quand on est libre de liens ou bien que soi-même on est dépendant et qu'on s'arrache. Mais quand les autres dépendent de nous, c'est compliqué.
Et puis partir, comme l'action se situe essentiellement au Havre, partir, c'est aussi l'ouverture qui offre potentialités et des aventures formidables.
Bien sûr, la mer est là. Hein.
Et puis partir, c'est ce que fera Marie à sa manière, en tout cas.
Voilà, un des premiers titres de travail du livre, c'était « Prendre le large ». Donc, cette notion était présente dans le souffle du livre, je dirais.
Voilà. Et finalement, c'est changer le sens des rivières, emprunté donc à la chanson « La beauté d'Ava Gardner » de l'album « Ultramoderne Solitude » de Alain Souchon. Et c'est Muriel Magellan qui nous a accompagnés aujourd'hui dans Wagon Livre pour changer le sens des rivières aux éditions Julliard, prix Albert Bichot 2019 de cette 12e édition de Livre en Vigne. Nous avons enregistré cette émission dans la cour du château. Muriel, et merci d'être venue jusqu'à nous dans des conditions pas forcément faciles, météo correct, un petit peu de bruit autour de nous, mais néanmoins notre échange j'espère va aider d'autres jeunes filles à partir et que les lecteurs vont...
En tout cas, je pense qu'on soit jeune ou moins jeune, que c'est intéressant de se poser la question sur nos cases. Voilà, comment on enferme les uns et les autres. C'est l'indocilité, c'est un des sujets de mes livres. Et finalement, Marie est une indocile. D'Outremont, le juge, est un indocile. Charlie est une indocile. Voilà, tous ces personnages, on va voir qu'ils ont une singularité, que finalement, ils ne cèdent pas à l'injonction des autres. Voilà.
Encore merci Muriel Magellan d'avoir évoqué « Changer le sens des rivières » édition Julliard. Si vous avez manqué le début de cette émission, c'est très simple. On se rend tout de suite sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr et on réentend Muriel Magellan parler de son roman, de ses personnages et de l'amour qu'elle a pour les mots. Elle nous l'a amplement prouvé aujourd'hui. Merci Muriel Magellan.
Merci.
Et je donne
beaucoup.
Rendez-vous à nos auditrices et auditeurs samedi prochain à 11h, toujours sur Radion, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.